Hein, je vous propose d'aller faire un tour dans la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et Paul a écrit aux Romains une lettre alors qu'il ne connaissait pas cette Église. Il ne connaissait pas ces chrétiens et il y a exposé la doctrine, la sainte doctrine. Et cette épître, elle a marqué quelque part l'histoire du monde. Elle a inspiré saint Augustin au IVe siècle et puis Martin Luther au XVIe. Et cette lettre, c'est la base de toute la spiritualité protestante. Elle n'est pas toujours toute facile à comprendre. Et quelquefois, une traduction moderne de la Bible aide. Alors, l'Épître aux Romains, c'est certainement la plus importante épître qu'a écrit l'Apôtre Paul. L'apôtre Paul, oulala, pas seulement par sa taille, c'est la plus longue, mais surtout par son contenu et son enseignement. C'est celle qui reprend le plus complètement le plan du salut et toutes ses implications. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur le chapitre 5. Les premiers versets en sont magnifiques. Après, ça devient peut-être un peu plus ardu, mais toute la Bible est là pour être lue et assimilée. Et pas seulement les parties faciles et évidentes. Dans l'écriture, il y a toutes sortes de plats, des petits pots pour bébés, des beefsteaks, et puis il y a des desserts aussi. Avant de lire le chapitre 5, on va prier. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as laissée. Merci pour tous les enseignements que nous pouvons en tirer. Et ce matin, ouvre nos oreilles et nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions en garder quelque chose. Amen. Alors, lisons Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, la mort était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup connaissent le premier verset du chapitre 5 par cœur. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Justifiés par la foi. Par là, Paul nous ramène à tout ce qui précède. Tous les hommes, religieux ou pas, juifs ou grecs, sont pécheurs. Pécheurs aux yeux de Dieu. Ils n'arrivent pas à faire tout ce que la loi demande. Ils n'arrivent pas à faire ce que leur conscience leur demande. Et quand les hommes jugent autrui, en réalité, ils se jugent eux-mêmes. Quand ils traitent quelqu'un de menteur, ils prouvent par là qu'ils savent que le mensonge est condamnable. Avec ou sans la connaissance de la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à franchir la barre que leur pose leur propre moralité. Les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont sous la coupe du jugement. Ils sont les ennemis de Dieu. Et aucun ne peut changer ça par ses propres forces, par ses propres bonnes œuvres, ou même par l'observance minutieuse de la loi. Mais le cas n'est pas désespéré. Ils peuvent, par la foi, recevoir le pardon de Dieu. Ils peuvent recevoir le statut de juste. Parce que Christ a donné sa vie pour eux. Nous avons la paix avec Dieu par la foi. Nous avons accès à cette grâce. Christ établit la paix en enlevant le contentieux qu'il y a entre Dieu et nous. Il nous justifie. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous justifie? Ça veut dire qu'il obtient que nous soyons considérés par Dieu le Père comme justes. Et ce n'est pas ce qu'on a obtenu par notre conduite, par notre piété éventuelle. C'est Christ qui l'obtient. Et on en bénéficie quand on a confiance en lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Ce n'est pas mérité. Et personne ne peut se vanter d'avoir fait quelque chose pour l'obtenir. On est justifié par la foi seul. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, dira Paul aux Éphésiens. Et puis nous avons la promesse de la gloire. Alors si le chrétien a tout reçu par grâce, il peut cependant être fier. Pas fier de lui-même, pas fier comme quelqu'un qui décroche une place pour les Jeux Olympiques, ou celui qui remporte une étape au Tour de France. Il a seulement la fierté de celui qui sait qui il est et où il va. Il a la fierté de sa destinée. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est ce qui nous est promis. Certaines personnes ont un immense problème avec leur image, l'image de soi. Ils se dévalorisent souvent. Mais comme chrétien, comme enfant de Dieu, on peut dire « Dieu me fera participer à sa gloire ». Comme chrétien, comme enfant de Dieu, on peut lever la tête. Et Paul, il dit quelque chose d'encore plus étonnant. « Nous nous glorifions même des afflictions ». Je ne sais pas si vous vous glorifiez des afflictions que vous avez. Moi, je ne crois pas. Et Paul nous dit ça, et l'enfant de Dieu peut lever la tête, même dans la souffrance, parce qu'il sait que les souffrances du monde présent créent en lui une sorte de force de caractère, la persévérance. Et cette persévérance aide à surmonter l'épreuve. Et que la victoire dans l'épreuve nous conforte dans l'espérance de la gloire à venir. Et cette espérance est bien réelle parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors ne croyez surtout pas les gens qui disent qu'avec la foi, vous n'aurez pas de problème. Vous en aurez. Christ n'a pas échappé aux épreuves. Que je sache, les apôtres non plus. Certains sont morts pour avoir obéi à Dieu. Sans avoir la foi ou en ayant la foi, nous aurons des épreuves. Mais la différence, c'est que si je crois, si tu crois, alors je peux et tu peux voir plus loin. Tu peux lever la tête, même dans l'épreuve. On a tendance souvent à voir l'amour de Dieu, à le sentir quand tout va bien, tout baigne. Mais la grande preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas la bonne santé. Ce n'est pas la réussite aux examens, ce n'est pas une augmentation de son salaire, parce que si c'était le cas, des fois on pourrait attendre longtemps pour ressentir l'amour de Dieu. Non, la grande preuve de l'amour de Dieu, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avons la certitude de l'amour de Dieu. On peut encore mieux comprendre cet amour et son immensité quand on regarde un peu plus en détail ces versets. D'abord, Christ est mort pour nous lorsque nous étions sans force. Sans force quand nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Et puis, il est mort au temps fixé, c'est-à-dire selon un plan déterminé, prédéterminé de Dieu. Il est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Christ ne s'est pas donné pour sauver des justes. Il s'est donné pour sauver des injustes. quelque part, c'est contre notre logique, tout ça. Peut-être pourrait-on donner sa vie pour sauver quelqu'un de plus juste que nous, quelqu'un de plus méritant, quelqu'un qui représenterait un espoir pour l'humanité, ou peut-être pour sauver un enfant. Mais Christ a donné sa vie pour nous sauver, nous, pécheurs, pour moi, pour vous. Et dans quel but il a donné sa vie ? Pour nous sauver, oui, mais nous sauver, c'est quoi ? Il a donné sa vie pour que nous soyons déclarés justes. Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? Et ça, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une supposition, c'est sûr, c'est certain. C'est la croix de Christ qui le prouve. Paul nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et la vie puissante de Christ qu'il nous a donnée nous sauvera plus certainement encore. Il dit aussi, nous nous glorifions en Dieu. Nous sommes sûrs de Dieu, heureux de Dieu, parce que nous sommes justifiés, sauvés, réconciliés. Il n'y a aucune place pour le misérabilisme, pour le doute. Il n'y a pas de place pour une foi à ras des pâquerettes. Ne nous frappons pas éternellement la poitrine, levons nos têtes. Dieu a prouvé son amour pour nous de la façon la plus forte possible. Et puis ensuite, dans la suite de ce chapitre, Paul fait une comparaison entre Christ et Adam. Adam, le premier homme, le premier être vivant, être fait pour vivre avec Dieu. Un seul homme à l'origine de toute l'histoire de l'humanité. En Jésus-Christ, une nouvelle humanité. Un seul homme à l'origine d'une nouvelle humanité. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par ce seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. La mort physique des humains n'était pas au programme initial. Ni la mort physique, ni la rupture avec Dieu, les ténèbres, l'angoisse, le jugement, la condamnation. La désobéissance d'un homme, d'un seul homme, a amené tout cela pour tous les hommes. Regardons maintenant Jésus-Christ, un seul homme aussi. Son geste, une obéissance. Le résultat de son geste, c'est la grâce de Dieu, le don de la grâce, la justification. Après une seule faute, la mort. Après des fautes sans nombre, Christ apporte la vie. En Adam, on est marqué par le péché. En Christ, on est marqué par la grâce. Et entre Adam et Christ, il y a eu un homme que les Juifs connaissent et estiment, Moïse. Moïse qui a donné la loi, sa loi, non, pas sa loi, la loi de Dieu. Pour les Juifs, il était important de comprendre la place de la loi de Moïse dans cette comparaison. Et Paul dit finalement qu'elle est assez limitée. Elle n'a joué aucun rôle dans les générations avant Moïse, qui pourtant ont été solidaires d'Adam dans le péché et dans la mort. La loi de Moïse, on va dire, elle s'est contentée d'apporter la connaissance du péché. Peut-être pour sensibiliser les consciences. Mais la loi a ainsi fait proliférer le péché. Elle leur a donné conscience aux hommes qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Avec la loi, la comptabilité du péché a explosé. Mais avec Christ, la grâce a surabondé. Elle a été la plus forte. Christ a été vainqueur. Alors, quelles conséquences pratiques ? La première, c'est qu'appartenir à Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas comme si je disais, par exemple, que j'aime qui ? Et que j'aime Mélenchon. Qu'un autre dise qu'il aime Benabar. C'est pas du même ordre. Christ est vraiment à la charnière de l'histoire. Appartenir à Christ, c'est être en paix avec Dieu. Une paix solide, une paix durable. Une paix qui change la vie. Appartenir à Christ, c'est faire partie d'une nouvelle humanité, cette nouvelle création dont il nous a été parlé tout à l'heure. La deuxième conséquence, c'est la certitude que nous apporte l'Évangile. Nous croyons en l'amour de Dieu à cause de la croix. Rien ne peut changer cela. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. Rien. Puis la troisième conséquence, et Paul va le développer dans les chapitres suivants, c'est que le chrétien vit maintenant dans la foi en Christ pour servir Christ, pour lui plaire. Le chrétien n'utilise pas la grâce comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Il ne joue pas avec le feu. Il ne dit pas, comme je crois que c'est un poète allemand qui disait « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». Paul disait, et je pense que tout enfant de Dieu devrait pouvoir dire « Christ est ma vie ». Comment pourrais-je consciemment déplaire à celui qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi ? Pour beaucoup d'hommes, la vie d'un chrétien se résume à une liste de choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Un système de lois. La Bible nous dit que ce n'est pas ça du tout. Avec un système législatif, on ne peut que s'enfoncer dans la culpabilité, ou peut-être pire, s'illusionner en pensant qu'on est bien sous tout rapport. La Bible ne nous dit pas ça. Christ nous sort de ce système-là pour servir Dieu librement, par pure reconnaissance et dans la confiance. Évidemment, c'est dans la tête de chacun que ça se trouve, dans la tête ou dans le cœur plutôt, parce que c'est là que se trouvent nos motivations, nos valeurs, nos attitudes profondes. Et si ce système de loi ne fait plus partie de notre vie, si tout ça s'est réglé, tout le reste suivra naturellement. Alors pour conclure, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que se trouve le remède aux pessimistes, au pessimisme, au sentiment de culpabilité. C'est là aussi que nous trouvons une raison pour ne plus critiquer les autres, ne plus nous comparer aux autres. C'est là que nous trouvons la possibilité de pardonner aux autres, de les aimer. C'est là que nous trouvons la motivation pour louer Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Et puis c'est là que nous trouvons le moyen de conjurer cette peur de la mort qui est dans tout homme. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors pour cette semaine, relisez donc l'Épître aux Romains. C'est tout un programme, c'est une vraie nourriture pour bâtir des chrétiens solides. Alors bon appétit.